Le sport sur Radio Okapi, c'est une question de condition physique. Imaginez partir de Kinshasa en 800 mètres et débarquer en Bandaka en canoë-kayak, franchir les forêts de la province orientale en saut en hauteur, décrocher une médaille de bronze à Lubumbashi, traverser le lac Kivu à la nage style papillon et j'en passe. Okapi Sport, un ensemble de correspondants et une équipe de présentateurs bien en forme pour vous apporter l'information sportive là où vous vous trouvez. Okapi Sport, car la passion du sport est sur Radio Okapi.
Voilà, disposition légale de la précarrière au sein de la police nationale congolaise. Et donc, c'est qu'on va aborder tout à l'heure avec notre invité, les commissaires supérieurs principaux Ndonda Kinzi Jean Bosco, directeur de ressources humaines de la police nationale congolaise. Alors, s'il faut d'abord commencer à parler des grandes lignes de ces dispositions légales de la précarrière. Quelles sont ces grandes lignes
Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous sommes à notre sixième séance dans le cadre de cette émission.
Sur le statut et carrière au sein de la police.
Exact, voilà. Oui. Et donc, je voudrais rappeler ici que le statut que nous avons commencé à analyser depuis la première séance, et nous arrivons aujourd'hui pratiquement à la dernière partie du statut qui parle de la précarrière. Mais avant cela, souvenez-vous, nous avons parlé de dispositions générales, c'est-à-dire nous avons évoqué les différentes innovations qu'a apporté la réforme au sein de la police nationale congolaise. Nous avons parlé du recrutement, nous avons parlé de droits, devoirs et incompatibilité. Nous avons abordé la question en rapport avec la carrière. Et tout dernièrement, nous avons discuté sur le régime disciplinaire et la procédure.
Oui.
Aujourd'hui, il est question que nous puissions parler de la pré-carrière. Au fait, c'est la sortie de la police. On est entré, on a fait un parcours et on est à la sortie. Et par rapport à cette partie, il y a trois grands chapitres que nous pouvions bien débattre, en commençant par celui qui précise qui parle de la cessation définitive de service. Et le deuxième chapitre, c'est celui qui porte sur la réintégration. C'est la possibilité de rentrer après avoir été sorti de la police.
Donc, on retient qu'il y a...
Au troisième chapitre, je termine.
Oui.
Nous allons parler des avantages à louer en fin de carrière et finalement, il y a une disposition qui va être évoquée au niveau du chapitre 4. Il concerne l'honorariat et le méritat.
Il faut préciser, vous avez dit il y a la cessation définitive de service, c'est-à-dire là, il n'y a plus possibilité de rentrer à...
Voilà, la cessation définitive de service, au fait, c'est ce que j'ai appelé la sortie.
Oui.
Et il y a plusieurs manières de sortir de la police.
Oui.
Et par rapport à ces manières, je vais évoquer les différentes manières ou les différents modes de sortie. C'est notamment le décès. Quand on meurt, naturellement, on ne va plus revenir au service. Et la révocation. La démission d'office, la démission volontaire, les licenciements ou la mise à la retraite. Ce sont les différents modes de sortie ou de cessation définitive de service qui sont prévus par les statuts. Voilà, je crois que
Ça, c'est déjà clair. Là, voilà. C'est dans le cas des décès, de révocation, des démissions d'office. Hein, là, c'est...
Voilà, oui. Démission d'office, démission volontaire et du licenciement. Et bien entendu, de la mise à la retraite proprement dite. Voilà.
Et pour le décès, là, il n'y a rien à ajouter comme explication, mais pour la révocation, il y a. À quel moment on peut arriver qu'on soit révoqué, hein, de manière à ce que vous quittiez en tout cas définitivement la police?
Oui, tout à fait, justement. C'est tellement de cessation définitive de service. La révocation est envisagée lorsque. Le policier a commis un acte d'une certaine gravité. Et il est dit que la révocation est une sanction disciplinaire prononcée pour faute grave par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis, bien entendu, selon le cas du conseil d'enquête ou des disciplines. Elle est aussi prononcée en vertu d'une condamnation judiciaire de servitude pénale de plus ou moins 6 mois irrévocables. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Que lorsque on a commis un acte grave, l'autorité ayant le pouvoir de nomination peut révoquer le policier. Ou alors, un policier qui a été condamné à une peine égale ou supérieure à 6 mois doit être révoqué de la police. Ça, c'est le texte qui le dit. Voilà. Donc, je crois que les autres modes de cessation
Et la mise à la retraite, parce que c'est aussi... Là, c'est déjà partir à sa prix à combien d'années, ou bien à quel âge?
Oui, bien sûr, bien sûr. La mise à la retraite, là, c'est la sortie honorable, je dirais même. Oui. La sortie honorable, parce qu'après avoir presté pendant un certain nombre d'années, ou après avoir atteint un certain âge pendant sa carrière, l'État ou le texte légal prévoit que l'officier de policier puisse aller se reposer. Donc, c'est soit on a atteint l'âge de 55 ans pour le sous-officier, ou alors l'âge de 60 ans pour les officiers, et enfin 65 ans pour les officiers supérieurs et généraux. C'est-à-dire dans les 50, les 60 ans, c'est juste pour les officiers subalternes. Subalternes, là, il faut sous-entendre la catégorie B. Ce sont des policiers qui sont justement dans le rang des sous-commissaires adjoints, commissaires et commissaires principaux. À 60 ans d'âge, ils peuvent aller à la retraite.
Et c'est ce qui s'est fait sur le terrain. Il y a où il se pose encore de problèmes par rapport à la mise à la retraite.
Non, tout à fait. Les problèmes ne peuvent que se poser.
Oui.
Parce que vous savez, pour remercier des gens qui ont rendu des bons et loyaux services à la République, on ne le met pas dehors comme ça, non. Il faut nécessairement que des dispositions soient prises pour que cette sortie soit de manière honorée. Ok.
Oui.
De sorte qu'aujourd'hui, alors qu'il est, on n'a pas encore procédé à la mise à la retraite. Parce que cela suppose de réunir un certain nombre de moyens financiers pour pouvoir remercier tous ces citoyens, ces bons citoyens qui ont travaillé pendant autant d'années et qui ont le droit d'aller se reposer paisiblement.
Voilà. Donc pour ça, on était donc dans la première partie sur la cessation définitive de service, c'est-à-dire que vous quittez la police nationale congolaise. Alors là, vous avez parlé donc de décès, de révocation, de la démission d'office, de la démission volontaire, de licenciement pour inaptitude physique ou professionnelle. Et là, faut un peu expliciter ça aussi, licenciement pour inaptitude physique. Parce que vous étiez déjà au sein de la police, et puis à un moment, on trouve que vous n'êtes plus apte.
Oui, tout à fait.
Oui.
C'est tout à fait cela.
Oui.
L'on parle du licenciement pour inaptitude physique, psychique ou professionnelle, dans le cas où le policier a été reconnu, par exemple, définitivement inapte au service, prouvé par une commission médicale. Ça peut être pour des raisons de santé. Et c'est principalement d'ailleurs ça. Raison de santé, il y a un petit physique et psychique également. Aujourd'hui, je peux tomber malade et que je ne sois plus à mesure de raisonner. Eh bien, à un moment donné, si la commission médicale statue et trouve que ma maladie ne va pas, je ne vais pas me remettre de sitôt de ma maladie, eh bien, on peut me révoquer, on peut me licencier. Vous comprenez? Mais par ailleurs également, le licenciement peut aussi intervenir lorsqu'on est inapte sur le plan professionnel. Autrefois, nous avons évoqué les différentes cotations qui peuvent intervenir dans la carrière d'un policier. Lorsqu'un policier a été coté successivement médiocre, non. Celui-là, je crois que sur le plan professionnel, on dirait qu'il est inapte. Et donc, il peut être licencié. Voilà en quelque sorte les exemples que je peux donner par rapport à cet aspect des choses.
Et vous avez parlé également de notre grande ligne, c'est de la réintégration. C'est-à-dire que, en dehors de la cessation définitive des services, il y a également une autre partie qui est la réintégration, c'est-à-dire où on peut encore être réintégré au sein de la police.
Il est prévu, oui. Il est prévu, la loi prévoit que un policier qui a été mis dehors par rapport à la loi peut revenir au service. C'est seulement lorsque, par exemple, il a été licencié pour inaptitude physique ou psychique et qu'à un moment donné, la commission médicale établit que cette raison a cessé d'exister. Ok? Soit encore, lorsque le policier a fait l'objet d'une réhabilitation légale, relativement à une condamnation.
Oui.
Par exemple, le chef de l'État peut prendre des mesures de grâce. Et par rapport aux personnes qui ont été condamnées et qui a des officiers de la police dedans, ils peuvent bénéficier de cette grâce. Et lorsqu'ils ont bénéficié de cette grâce, bien entendu, ils vont reprendre le service. On doit les réintégrer. Ça, c'est la loi qui prévoit ça. Et il est également dit que lorsque l'existence ou la gravité des faits ayant entraîné la révocation d'un policier, si ces raisons cessent d'exister, le policier peut réintégrer le service. Bien entendu, à ce moment-là, il a à être consulté. C'est son avis qui compte. Il peut réintégrer tout comme il peut ne pas réintégrer. C'est pas obligatoire.
Et voilà,
et
donc
bien sûr également,
oui.
Lorsque on a été retraité de façon anticipative et que détenant d'une certaine compétence, une certaine spécialité, l'autorité estime que vous pouvez rentrer, c'est aussi une manière de réintégrer le service. C'est après avoir été dehors, on vous reprend. Pour des raisons que je viens d'évoquer tout à l'heure là.
Voilà, là c'était, il s'agissait de comment on peut réintégrer à la police et également c'est cette grande ligne très importante, c'est des avantages loués en fin de carrière.
Waouh.
Qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport à ça avant d'accorder la parole aux auditeurs.
Tout à fait, tout à fait. Je voudrais vraiment que cette partie, je sais que ça va intéresser tout le monde et ça intéresse tout le monde.
Oui.
Il est entendu, il est dit que à la fin de sa carrière, les policiers ou les membres de sa famille bénéficient, selon le cas, des avantages suivants. C'est notamment une allocation de fin de carrière, une pension d'invalidité, une pension de retraite, une allocation de décès et une rente de survie, des soins de santé et frais pharmaceutiques, des frais de rapatriement, des frais funéraires, des allocations familiales, ainsi que les autres avantages qui peuvent lui être reconnus.
Beaucoup d'avantages. Oui. On va donc essayer au fur et à mesure d'essayer d'expliquer à chacun de ces avantages. Nous rappelons pour toutes les personnes qui viennent de se joindre à nous sur la fréquence de la paix, c'est les rendez-vous de la police dans le magazine Okapi Service. Et aujourd'hui, on parle de la précarrière au sein de la police nationale congolaise avec notre invité, le commissaire supérieur principal Ndonda Kinzi Jean Bosco, directeur de ressources humaines de la police nationale congolaise. Le numéro d'appel, c'est les 081 890 63 94.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers? Un espace vous est réservé. Samedi, dimanche, 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Okapi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicaces@radiookapi.net et demandez une chanson et nous vous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Voilà, nous avons déjà en ligne Clément Ndaye qui nous appelle du Kananga. Bonjour Clément.
Bonjour Marcel Ngombombala. Bonjour aussi à mon colonel Jean Bosco.
Voilà, on vous écoute, le colonel est là pour vous Clément. Quelle est votre question?
D'accord, je voudrais juste demander à l'invité. Il est vrai que selon nos constats, je vais plus vite remarquer qu'ici, il y a parfois les policiers non ordinaires qui n'ont pas vraiment de titre en ce qui concerne vraiment leurs fonctions, mais je le vois qu'ils sont déjà presque vieux. Et tantôt, il y a un monsieur que j'ai remarqué encore, il a l'habitude de se stationner au niveau de l'Imokasai pour tendre les mains, je n'arrive pas à comprendre. Alors, on doit se baser sur quoi pour que les policiers ordinaires puissent vraiment regagner, soit avoir leur retraite. On se base sur quels critères normalement. Alors, la deuxième des questions, j'ai vite compris le colonel qui a énuméré certaines fonctions en ce qui concerne vraiment la catégorie B, ainsi de suite. Mais pourquoi il a oublié la catégorie A? Et puis cette catégorie A-là est constituée de quel titre vraiment? Puisqu'il a surtout parlé de catégorie B. Mais la catégorie A est vraiment composée de quel titre qui peuvent aussi bénéficier de la retraite? Alors la troisième des questions que je voudrais juste demander. Il est vrai que dans beaucoup de choses, je trouve que non, les policiers ne sont pas bien encadrés. Alors cela est dit à quoi? Les policiers ne sont pas bien encadrés. Cela est dit à quoi? Alors merci de m'avoir accordé la parole et bonne journée chez vous, Marcel Ngombo, et surtout bon week-end chez vous.
Merci Clément Ndaye, nous rappelons que vous nous appelez depuis Kananga. Qu'est-ce que vous dites à Clément Ndaye?
Merci beaucoup. J'ai compris qu'il voulait savoir quels sont les critères qu'on prend en compte pour mettre le policier en retraite. Et je ne sais pas s'il a parlé de non-originaire ou de ordinaire ou non-originaire.
Non, c'est comme s'il a parlé d'un policier qui en principe, d'après lui, il doit déjà être en retraite. Et si le policier n'est pas de ce coin-là, lorsqu'il est en retraite, comment faire pour qu'il puisse prendre tout à fait
justement. Oui. Nous avons évoqué ici les critères pour pouvoir être retraité. Et c'est notamment l'âge et l'ancienneté. Et l'âge, j'ai annoncé ici que à 55 ans, lorsque on est de la catégorie des sous-officiers, on peut être retraité. Et à la catégorie B.
Mais même si on semble encore être vraiment apte, c'est comme ça.
Non, l'aptitude, ça se constate pas de façon quelconque, non. C'est plutôt les documents. Nous parlons avec les documents.
Oui.
Nous avons la base de données. Nous pouvons dire que voilà, tel monsieur aujourd'hui il a 55 ans d'âge, alors qu'il est déjà un sous-commissaire, eh ben, il est éligible à la retraite. On ne le voit pas forcément. Nous avons des données de chaque dans la base de données. Donc c'est ce qui nous permet de dire que tel policier a atteint l'âge de retraite ou pas. Ça, c'est par rapport à la catégorie des sous-officiers, 55 ans. Les officiers, c'est-à-dire les commissaires adjoints, commissaires principaux, c'est à 60 ans d'âge. Ça, c'est par rapport à l'âge. Les officiers supérieurs, c'est-à-dire les commissaires supérieurs adjoints, commissaires supérieurs, commissaires supérieurs principaux, ainsi que les généraux, 65 ans d'âge. Ça, c'est par rapport à l'âge. Mais bien entendu également, il y a aussi l'ancienneté qui est prise en compte pour pouvoir mettre quelqu'un à la retraite. Donc, je crois que ces critères-là sont clairs. Et lorsque un policier qui se trouve dans un coin de la République a atteint l'âge de la retraite, le jour qu'il va être mis à la retraite, il est prévu un certain nombre de dispositions à prendre. C'est notamment les indemnités de rapatriement, auxquelles nous allons certainement faire allusion ici.
Oui.
Et ces indemnités-là sont justement payées aux policiers pour pouvoir lui permettre de faire un déplacement aisé jusqu'au lieu où il va passer sa retraite.
Et c'est ce qu'il est en train de dire, c'est comme si généralement ça prend beaucoup de temps. Il a parlé de ce policier.
Non, jusque-là, on n'a pas encore mis à la retraite. On n'a pas encore mis à la retraite de la manière qu'il fallait le faire. À l'heure qu'il est, je vous apprends que depuis que la PNC, la Police Nationale Congolaise, qui est née en 1997, elle a déjà mis à la retraite 34 officiers seulement. 34 officiers, et pour la plupart, des généraux. Vous comprenez? Donc, il y a encore un travail à faire. Nous avons déjà pris les dispositions pour que, si jamais l'autorité réunissait les moyens nécessaires, pour mettre un certain nombre de policiers à la retraite, à la hauteur pratiquement d'une dizaine de milliers. Hein.
Oui.
Mais là, voilà. Et les jours qui vont être mis à la retraite,
oui,
comprenez que chacun aura droit à une indemnité de rapatriement pour qu'il puisse se rendre au lieu où il voudra bien passer sa retraite. Voilà.
Bon,
ça, c'est la première question. Je crois que j'ai pu répondre à ça. Il voulait savoir de qui est constituée la catégorie A1, A et A1. Évidemment, ça, c'est le statut qui le dit. Nous, qui sommes du corps, nous savons quand on parle de la catégorie A, on sait qu'il s'agit bel et bien des commissaires divisionnaires, c'est-à-dire des généraux. Et la catégorie A1, c'est celle qui regroupe les officiers supérieurs, c'est-à-dire les commissaires supérieurs adjoints, commissaires supérieurs principaux. Ces deux catégories-là, justement, regroupent les officiers que je viens de citer tout à l'heure.
Voilà, on va poursuivre avec d'autres auditeurs. Il y a Jean de Dieu Kafuka qui nous appelle et qui est c'est-à-dire qui est à Kinshasa. Jean de Dieu, bonjour.
Bonjour, monsieur Jodi, bonjour aussi à mon colonel.
Bonjour.
Oui, merci beaucoup pour l'émission, c'est très important. Moi, je vais intervenir par rapport aux avantages où un policier pourrait avoir après de son carrière. Je crois, mon colonel, j'ai énuméré quelques avantages où un policier pourrait avoir après avoir arrivé fait son travail. Et nous trouvons que tous ces avantages-là, c'est bien, je dirais, qui est vraiment probable, probablement pour un policier à la fin de son carrière. Mais nous trouvons que tout ce qu'on est en train de dire là, pratiquement, on ne les voit pas. Parce que quand on trouve déjà quelqu'un qui a envie, qui travaille, pour son État, qui est sous drapeau et qui se sacrifie pour son pays, pendant qu'il est en vie et il a la force, on ne voit pas tous ces avantages-là. Maintenant, quand il sera fait son carrière ou il meurt, avec tous ces avantages-là, à quoi servira-t-il pendant que, ou, au moment où il devrait avoir ça, où on ne trouve pas ça? Par exemple, nous trouvons ici des policiers quand il est malade, c'est lui-même qui est en train de faire ses efforts pour aller se faire soigner. Et même la nourriture, c'est eux-mêmes, et la plupart de leur famille souffrent pendant que lui travaille. Et la plupart disent que mais, c'est un chariot humain vit très bien qu'un policier parce que en lui, travaille pour son état, il est plus pris au travail et à la maison, on n'a rien, on n'entend qu'un salaire au bout du mois. Et puis, il n'y a pas d'autres avantages si ce n'est que ce qu'il touche à la fin du mois. Et tous ces avantages-là pouvaient arriver à la fin de carrière ou quand quelqu'un meurt, mais cela ne servira à rien. Il serait mieux que tous ces avantages-là soient quand même vie et soient quand même vraiment proposés à un policier qu'il pouvait commencer déjà à les bénéficier pendant qu'il est en train de travailler. C'est ça au moins ma préoccupation, si on pouvait voir aussi dans ce sens-là, essayer au moins de l'air quand même aider pendant qu'ils ont besoin de travailler et bénéficier d'autres avantages-là qui attendent qu'on puisse leur donner quand il sera vieux, fatigué ou quand il meurt. Merci beaucoup, bonne suite de programme.
Merci Jean de Dieu depuis Kikwit. Tadé, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Tadé. Tadé n'est plus en ligne, on pourra peut-être le retrouver plus tard. Voilà, vous avez suivi Jean de Dieu Kafouka et qui dit bon, c'est vous avez énuméré tous ces avantages loués en fin de carrière, mais lui l'estime que déjà lorsqu'un policier de service, on a comme l'impression il est presque abandonné à lui-même. Il a évoqué le cas de fois des policiers qui sont malades de leur famille et ils se battent comme ils peuvent pour avoir accéder aux soins. Et comment expliquer qu'en fin de carrière qu'on pourra vraiment bien s'occuper de ce policier? Qu'est-ce que vous dites?
Une question très très intéressante. Je crois que j'ai eu l'occasion de le dire ici devant ce micro que déjà dans la partie carrière, nous avons abordé cette question en rapport avec les avantages sociaux accordés aux policiers. Nous avons fait allusion en son temps des allocations familiales, des indemnités de logement, des soins de santé, des frais pharmaceutiques, des frais d'installation, des indemnités de compensatoires, des frais de transport et de voyage, allocations de validité ainsi que le frais funéraire. Et encore une série d'avantages qui viennent d'être évoqués après la carrière. Je vais tranquilliser notre frère qui vient d'intervenir pour lui dire que j'ai eu l'occasion de le dire ici que le statut qui nous gère aujourd'hui a prévu tout pour qu'un policier puisse être à l'aise. Tout est prévu pour qu'un policier puisse être à l'aise. Ça, c'est par rapport à la loi. Maintenant, par rapport au vécu quotidien, c'est un autre problème. Un autre problème parce que non seulement l'ensemble des dispositions statutaires ici évoquées ne sont pas encore d'application pour la plupart d'entre elles, mais également, la situation sociale du policier, il ne faut pas l'isoler de la situation sociale du fonctionnaire congolais. Il ne faut pas l'isoler. C'est un tout. Parce que, qu'il s'agisse d'un policier ou d'un autre fonctionnaire, tous, ils ont un seul employeur, c'est l'État congolais. C'est le gouvernement congolais. Et donc, pour dire que, aujourd'hui, si les conditions socio-professionnelles du policier ne sont pas encore améliorées, nous disons, c'est du devoir du gouvernement d'améliorer les conditions de travail, d'améliorer les conditions de vie du policier, tout comme des autres fonctionnaires. Et la plupart des dispositions statutaires qui sont évoquées ici, bon nombre d'entre elles attendre les mesures d'application.
Et
les
mesures d'application. Dans termes clairs, voilà. Il faut mettre des moyens pour la police.
Je suis en train de parler clairement et dire que le gouvernement congolais a la responsabilité de mettre les fonctionnaires de façon générale, sinon les policiers de façon particulière, à l'aise. C'est-à-dire de lui donner le minimum pour qu'il puisse vivre de façon aisée. Et il a bien voulu, il a exprimé cette volonté, je dis bien le législateur, a exprimé cette volonté à travers le texte que nous sommes en train de lire ici. Et donc, l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, à son tour, devra également suivre, c'est-à-dire que faire appliquer ces dispositions statutaires pour que ça devienne des réalités. Nous sommes dans un pays, comme vous savez, on prétend qu'il est potentiellement riche. Mais en réalité, c'est comme je l'ai dit une fois, un village qui est assis sur une mine d'or, enfouie dans le sol, mais incapable de se servir de cet or-là pour améliorer les conditions de vie. C'est-à-dire quoi? Il faut des nouvelles, une technologie poussée, avancée, pour pouvoir exploiter certaines potentialités dont nous disposons, pour que l'État puisse avoir les moyens et mettre ces moyens à la disposition des hommes qui travaillent, les policiers, tout comme tous les autres fonctionnaires. C'est clair, je crois que...
C'est vraiment une question cruciale.
Comme pour dire en d'autres termes que, entre le vécu quotidien du policier et ce que prévoit le texte, il y a toute une marge.
D'autres auditeurs en ligne, pour suivre la Tadé, qu'on retrouve de nouveau en ligne. Tadé, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Tadé.
Bonjour monsieur le journaliste.
On vous écoute Tadé.
Oui, vraiment, je fais de vous féliciter quand même pour ces initiatives Radio Capi. Et je salue en passant monsieur le colonel qui est au plateau. Je voulais un peu lui demander, parce que nous n'avons pas la maîtrise de ce qui est l'organe ou les lois organiques de la police, mais c'est une occasion pour nous pour connaître quand même certains faits de la police. Cher colonel, je voulais aborder sur les mêmes sujets que tout le monde qui parle de retraite des policiers. Vous savez que vous êtes de la gestion de la gestion des ressources humaines. C'est-à-dire, vous êtes mieux placé pour nous expliquer un peu sur ces cas de après les services loyaux prestés par les policiers dans notre pays. Nous voulons que vous puissiez un peu nous dire, pas ce qui est de la politique. D'après vous, quand un policier part en retraite, qu'est-ce que vous prévoyez? Vous prévoyez quoi? Si ce n'est pas les empêchements de l'exécution par la politique, mais d'après les lois de la police, qu'est-ce que ça prévoit? Parce que nous sommes plus remarqués, nous sommes plus frappés par nos vieux papas policiers qui circulent le marché partout en train de mendier, ce qui n'est pas fait par d'autres fonctionnaires de l'État. Or, vous avez dit qu'ils sont tous de la même catégorie, comme nous sommes dans un village bâti sur une mine d'or. Mais nous voyons d'autres fonctionnaires, ils sont chez eux, mais la police se déplainte pendant les services, se déplainte après les services. Venez un peu nous dire les lois que vous avez préconisées pour après service, ce qu'un policier peut être. Ça, c'est une question. Je sors aussi du sujet pour vous demander, quand on parle des anciens combattants, venez un peu m'expliquer, cher colonel, parce que vous êtes aussi du corps armé. L'ancien combattant veut dire quoi? Ces gens-là vont, parce qu'ils ont, ils ont combattu à un certain âge, je n'ai pas même bien l'histoire, mais ils vont aller jusqu'à quel âge? Ou bien ce sont des jeunes gens qu'ils ont recrutés pour les services soit d'administration qui sont appelés aujourd'hui anciens combattants. Je voulais aussi, par cette occasion, connaître les anciens combattants, malgré s'ils étaient de l'armée, ils ne sont pas de la police, si vous pouvez m'expliquer, cher colonel. Merci pour l'occasion que vous m'avez accordée, colonel.
Merci, Tadé, d'avoir appelé de Kinshasa. À Arou, Innocent est en ligne. Bonjour, Innocent.
Bonjour, journaliste.
On vous écoute, bonjour, Innocent. Oui, allez-y, quelle est votre question?
J'ai une petite question en rapport avec le sujet. Alors, ma question est celle de savoir comment, qu'est-ce que donc la loi prévoit pour les policiers qui se méconduisent, par exemple. Si vous allez trouver des policiers qu'on a arrêtés autant de fois, on arrête, on libère, on arrête, on libère. Est-ce qu'il y a une mesure de l'exclusion des policiers qui se méconduisent autant de fois? Si ce n'est que peut-être je connais le fait qu'il est arrivé à son âge où il faut être retraité. Mais à part ça, est-ce qu'il y a un autre mécanisme? C'est ça ce que je cherche à savoir.
Merci, Innocent. Depuis Arou, voilà, on vient à vous, commissaire supérieur principal. Alors, vous avez suivi, on le disait avant même la question de Tadé, il s'agit d'une question cruciale, hein, c'est-à-dire, vous avez dit, les textes sont là, mais la mise en application de ces textes pose problème parce qu'il faut des moyens. Et là, vous avez suivi Tadé qui revient encore sur ce même problème des policiers qui ont rendu des loyaux services à la nation, mais qui, lorsqu'ils sont mis à la retraite, il faut dire que ça devient presque un calvaire. Alors, ils cherchent à savoir quels sont actuellement. Hein, c'est vrai qu'il y a des problèmes, qu'il y a des difficultés, mais quels sont, à votre niveau, puisque vous êtes chargé des ressources humaines, on sait d'après, quels sont les efforts qui sont mis, des efforts que vous faites pour essayer, tant soit peu, d'aider ces policiers lorsqu'ils sont, enfin, après leur carrière.
Bien, merci beaucoup. Je crois que la question qu'il pose, elle me renvoie encore dans le texte. Rien d'autre à prévoir que ce qui est prévu par la loi. Et la loi prévoit qu'un policier qui va à la retraite, il a droit à une allocation de fin carrière. Il a droit à une pension de retraite, il a droit aux soins de santé et des frais pharmaceutiques, il a droit à des frais de rapatriement, et ainsi de suite. Ça, c'est le texte. Je vous apprenais tout à l'heure ici que la police n'a pas encore mis à la retraite ces hommes depuis bientôt 10 ans. Raison pour laquelle, c'est comme pour vous dire que le gouvernement est conscient du fait que les moyens n'étant pas encore disponibles, ne peut pas se permettre de mettre dans la rue des policiers sans pour autant leur donner la possibilité de vivre aisément, c'est-à-dire de payer toutes les indemnités et les allocations ici énoncées. Et le gouvernement, certainement, à l'heure qu'il est en train de se préparer pour que le moment venu, lorsqu'il va décider de mettre à la retraite, eh bien, que les moyens suivent également. Que les moyens suivent. On ne peut pas mettre les gens à la tête sans prévoir comment ils vont passer leur vie en dehors du service. Vous comprenez? Donc c'est ça. Et ils continuent encore de payer. Je vous apprends que nous vivons dans un pays tout à fait qui est extraordinaire. Hein. Les quelques cas de retraités qui ont été enregistrés au sein de la PNC, ils sont au nombre de 34, ils continuent à bénéficier de leur traitement comme s'ils étaient en activité. Exactement. Ils reçoivent.
Ça devient paradoxe alors.
Non, c'est pas un paradoxe. Le gouvernement, c'est un gouvernement responsable. Raison pour laquelle j'ai dit.
Mais puisqu'ils ont les moyens
à mettre à la disposition de ces hommes-là, oui, ne sont pas encore prêts, on les laisse percevoir les traitements comme s'ils sont en activité pour qu'ils se sentent quand même à l'aise, pour qu'ils répondent quand même aux besoins élémentaires de leur famille. En attendant, bien sûr, le jour qu'on va devoir, ok, aujourd'hui, on peut vous payer les allocations fin carrière, et à partir de ce moment-là, le traitement ne sera plus celui qui perçoit aujourd'hui. Vous comprenez?
Oui.
Donc voilà, ça, j'ai soulevé cet exemple pour vous dire que la mise à la retraite, c'est pas un jeu de hasard, hein. Ça se prépare.
Il faut bien préparer cela, avoir tous les moyens qu'il faut, de manière à ce que on puisse bien prendre soin de tous ces policiers qui ont rendu service
tout à fait.
À la nation.
Alors, et la question qui est posée en rapport avec les anciens combattants. Au fait, c'est quoi? Le corps dit anciens combattants au niveau des forces armées. C'est le corps qui regroupe tous les anciens militaires mis à la retraite. J'y parle bien de mis à la retraite. Ok. C'est au niveau du ministère de la Défense, il y a un secrétaire général chargé des anciens combattants. C'est tous nos compatriotes qui ont, à un moment donné de leur carrière, ont été dans les forces armées. Eh bien, lorsqu'ils sont mis à la retraite, il y a une structure étatique qui se charge d'eux. C'est cette structure qu'on appelle anciens combattants. C'est-à-dire que le secrétaire général des anciens combattants, au niveau du ministère de la Défense. Donc, je crois que c'est
Et là, vous précisez, c'est ceux qui ont servi au sein de l'armée, hein. C'est ça qu'on appelle anciens combattants.
Bien sûr. Ils ont servi au sein des forces armées.
Des forces armées. Voilà, c'est ce qu'on appelle combattants. Voilà. Bon, avant de répondre à ces questions sur,
Il a posé une question pour savoir que prévoit la loi pour un policier qui ne cesse de se méconduire.
Ouais, c'est ce que,
Mais m'en fait. J'ai dit que l'État ne se fatigue pas. Oui. Devant les comportements déviants. Imaginez-vous le phénomène Kuluna ou autre. Ça date de combien de temps? Ce n'est pas pour autant que l'État dit, ok, je croise les bras parce que je me rends compte que je ne serai pas. Non. Un policier qui se méconduit. Aussitôt que l'on est informé de sa méconduite, dans l'unité du travail, il doit être soumis à une sanction. Mais la méconduite, si elle atteint un degré de gravité quelconque, les dispositions statutaires parlent même de la révocation pour un policier qui s'est méconduit ou qui a affiché un comportement gravement condamné.
Et pour ces gens de cas, lorsqu'on a révoqué, il faut même pas peut-être espérer à, vous avez parlé de la réintégration, c'est pas évident, hein, lorsque pour des faits dont on estime que vous méritez plus, de servir au sein de la police, parce que vous avez
dit, oui, ça dépend. À supposer, par exemple, qu'il a commis un acte, qu'il a fait condamner à une peine en prison. Bon, si jamais, un jour, le chef d'État prend une mesure de grâce pour, libérer certains des condamnés, et parmi ceux-là il y a ces policiers-là, il va être repris, et la prison étant une maison d'éducation, on suppose que à la sortie de là il aura changé de comportement et d'attitude.
Voilà, JC nous appelle de Béni et nous avons un auditeur qui nous appelle de Kindou, c'est Moulinga, j'espère que c'est bien cela son nom. On y va avec JC qui est à Béni. Bonjour JC.
Bonjour.
On vous écoute, JC.
J'aimerais demander à notre invité de nous aider. Nous, en tant que population, nous constatons avec regret, malheureusement, que bien qu'il y a quand même des bons policiers, mais il y a des très mauvais policiers qui font du n'importe quoi. Des choses graves. Même quand vous faites un effort pour les faire condamner, même jusqu'à 5 ans de prison, ils ne sont pas toujours, ils ne sont pas chassés de la police. Hein? Nous aimerions vraiment vous demander d'être à l'écoute de la population, d'être à l'écoute des activistes des droits de l'homme, afin que tous les mauvais policiers puissent quitter. Il est inadmissible que les policiers souvent vivent de l'extorsion et d'arrestation arbitraire. C'est inadmissible et inacceptable. Nous vous demandons tout simplement de les radier de la police. Je vous remercie.
Merci beaucoup, JC, depuis Béni, et puis Moulinga, depuis Kindou. Bonjour, Moulinga.
Bonjour, messieurs, bonjour.
On écoute,
Moi, je viens intervenir auprès de cette émission pour poser une petite question qui est la suivante. Notre invité du jour a parlé longuement de la retraite des officiers policiers. Est-ce que un simple policier, lui aussi, n'a pas raison de bénéficier d'une retraite? Si lui aussi a la raison de bénéficier, à combien d'années de service? Merci.
Voilà, merci à Moulinga depuis Kindou, commissaire supérieur. Vous allez répondre donc à ces deux auditeurs et puis on va conclure parce que ça c'est le dernier sujet par rapport à tout ce qui est lié.
Merci beaucoup. Monsieur le journaliste. Nous allons conclure, c'est vrai, mais je voudrais dire ici que s'il y a de très mauvais policiers, je demanderai à notre frère qui venait d'intervenir, tout comme bien d'autres qui se saisiraient d'une information sur le comportement d'un policier, il faut informer la hiérarchie de la police. Informer la hiérarchie de la police pour qu'elle puisse prendre des mesures à l'endroit de ces policiers. Parce que, généralement, les policiers, les actes que posent les policiers, c'est souvent en dehors, justement, du service. En dehors. Ce genre de policiers auxquels il fait allusion, c'est en dehors du service à la cité ou les policiers vivent. Mais un tel comportement, si vraiment, alors, il y a des exemples palpables, il faut absolument les dénoncer. Il faut dénoncer ce genre de policiers, s'il en existe, auprès de la hiérarchie de la police, et des mesures seront prises pour les discipliner. Voilà. Et le dernier intervenant, il parle du simple policier s'il peut aussi bénéficier de la retraite. Je crois que je l'ai déjà dit. La retraite ou la cessation définitive de service, c'est pour tous les policiers. Il n'y a pas un policier qui est exempté justement à cette disposition de la loi.
Oui.
Non. Lorsqu'on a atteint un certain âge, on doit laisser reposer. Lorsqu'on a accompli autant d'années d'expérience ou d'ancienneté dans le service, le texte, la loi prévoit que l'officier ou les policiers puissent aller se reposer. Donc, c'est valable pour tous les policiers, qu'ils soient éléments de rang ou cadres.
Donc, nous retenons à mon commissaire supérieur principal qu'il y a des dispositions légales par rapport à d'après-carrière au sein de la police. Vous avez parlé de la cessation définitive de service, vous avez parlé de la réintégration, mais aussi des avantages alloués en fin de carrière. Et pour l'instant, il y a 34 policiers seulement.
Jusque-là,
ils sont retraités. Voilà, sont carrière, retraités. C'est-à-dire, il y a.
Mais on continue à les traiter comme s'ils étaient encore en activité, hein.
Voilà. Mais il y a l'État qui faut mettre de moyens afin d'appliquer, hein, tout ce texte, surtout pour ce qui concerne, le sujet dont on vient d'évoquer, c'est-à-dire, comment s'occuper du policier à la fin de sa carrière.
Tout à fait.
On va s'arrêter par là. Mon commissaire supérieur principal, Ndonda Kinzi, nous rappelons que vous êtes directeur de ressources humaines de la police nationale congolaise. Donc avec vous, on vient d'aborder ces derniers sujets concernant les statuts et carrières au sein de la police nationale congolaise selon les dispositions légales.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voulais quand même ne plus que saluer la Radio Capi pour cette opportunité qu'elle nous a accordée pour pouvoir faire parler à la police par rapport à son fonctionnement et de dire également un grand merci parce que les autorités qui nous ont délégués à cette émission sont en train de fournir d'énormes efforts pour pouvoir mettre en place une police qui soit respectable, qui soit au service de la nation, qui soit au service du peuple. Et je crois que nous sommes en train d'y arriver parce que la réforme qui a été entamée il y a bientôt quelques années court encore. Il y a des efforts à fournir, c'est vrai. Il y a des efforts à fournir et je crois que la police d'aujourd'hui, je le dis et je le répète, c'est une police nationale. Elle est au service de la population, des institutions, des dirigeants, aussi bien d'aujourd'hui que ceux de demain. C'est la même police qui sera au service en permanence pour pouvoir répondre à ses missions.
Voilà, les rendez-vous avec la police pour les comptes du magazine Okapi Service, c'est pour le vendredi prochain.
Merci.